France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans Les Informés, votre rendez-vous de décryptage tous les matins jusqu'à 9h30. Retour sur deux événements qui font l'actualité sur France Info Radio et France Info TV, canal 16 de la TNT. Bonjour Renaud Delis.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous accueillons Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Et Paul Barcelone, journaliste au service politique de France Info. Bonjour Paul.
Bonjour Agathe.
On commence avec notre premier débat, Renaud. L'État et les élus doivent-ils se montrer exemplaires au moment où on cherche des économies?
On le sait, en effet, Sébastien Lecornu, le gouvernement cherche des économies un petit peu partout pour tenter de boucler ce budget 2026. Et dans ce cadre, le nouveau Premier ministre a annoncé ce week-end qu'il entendait d'une part réduire le train de vie de l'État et puis aussi supprimer les derniers avantages à vie accordés à vie à certains anciens ministres. En l'occurrence, il vise plus spécifiquement les anciens premiers ministres. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? La réponse de votre invité, celui qui était à votre micro il y a quelques minutes, Thierry Breton, ancien commissaire européen, lui-même ancien ministre de l'économie.
Une question absolument essentielle. On est le seul pays qui donne ses privilèges. Mais regardez, enfin, encore une fois, on a maintenant, je le disais tout à l'heure, 3, 4, 5 premiers ministres depuis la dissolution. On en a pratiquement, ça veut dire pratiquement un tous les 3 mois. Et lorsqu'on était premier ministre, et je ne porte pas de jugement, encore une fois, ce sont des femmes et des hommes extrêmement méritants, bien entendu. Mais enfin, quand on a été premier ministre 3 mois, est-ce que ça justifie qu'on ait une voiture de fonction à vie, une sécurité à vie, un chauffeur à vie? Bien entendu que non. Donc il faut revoir tout ça, et encore une fois, sans jeter la pierre, sans jeter l'opprobre, vous voyez.
Alors, en l'occurrence, pour les anciens premiers ministres, en effet, il y a 17 anciens premiers ministres vivants, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, au rythme avec lequel on a de nouveaux anciens premiers ministres. Ils ont droit à une voiture avec chauffeur, ils ont droit à un secrétariat particulier pendant une durée limitée à 10 ans, et pas au-delà de l'âge de 67 ans, ce qui fait d'ailleurs que François Bayrou et Michel Barnier n'y auront pas droit. Et puis, ils ont en effet une protection. Il faut savoir que les anciens premiers ministres coûtent environ à l'État, environ au total 4,5 millions d'euros par an. L'essentiel de ces dépenses étant d'ailleurs des dépenses liées à la protection. Alors, est-ce que c'est légitime de pointer du doigt ces dépenses, comme le fait le nouveau Premier ministre? Et puis, est-ce que ça relève davantage du symbole, au regard d'ailleurs des attentes d'une frange de l'opinion, ou est-ce que ça peut effectivement contribuer à réduire les déficits publics?
Déjà, on parle de quoi, Fanny Guinochet? Est-ce qu'on le Premier ministre parlait bien des anciens Premiers ministres quand il dit qu'il faudra revoir les privilèges d'anciens membres du gouvernement?
Non, mais effectivement, la facture, elle n'est pas très élevée au regard des dépenses de l'État. On est en millions d'euros, 4 millions et demi, rappelait Renaud Delis, mais il me semble que c'est essentiel et que le symbole vraiment pèse. On l'entend dans la plupart des enquêtes d'opinion pour les Français. On ne peut pas laisser, d'ailleurs Thierry Breton parle de privilèges, on ne peut pas laisser ce que les Français ressentent comme des privilèges d'un autre temps, à un moment où on demande aux Français de faire
de
des efforts,
la ceinture.
De
se mais l'éditorialiste la économique que vous êtes, dites, ça changera rien au
moi,
moment
je crois,
où on cherche
moi,
des
je crois
dizaines
que ça
de milliards
ça
d'euros d'économie.
Rien facialement sur la facture, effectivement, c'est pas très élevé, mais ça change tout dans l'acceptation de faire des efforts par ailleurs. C'est-à-dire que pour les Français qui perdent leur job, il se passe quoi? Il se passe France Travail. Vous avez déjà été à France Travail? C'est une administration qui a quand même quelques dysfonctionnements. C'est une administration qui est compliquée. Vous devez, en plus, tous les quelques mois, on en est à la quatrième réforme. Et de l'autre côté, vous avez effectivement des premiers ministres. Alors là, on parle des premiers ministres, mais qui restent 3 mois et qui repartent avec un chauffeur, etc. Dans le symbole, c'est délétère. Sans compter, Thierry Breton l'a rappelé, que par rapport à d'autres pays européens, on est dans une situation un peu particulière. Alors certains diront que c'est du populisme. Mais moi, il me semble que vraiment, aujourd'hui, ce qui se pose, que ce soit dans l'acceptation de plans d'efforts, l'acceptation du consentement à l'impôt, c'est ce genre de symbole. Et on peut chercher ailleurs. Hein. C'est effectivement aussi tous ces organismes publics dont on a l'impression qu'ils ne servent à rien. On nous a promis de faire une revue de dépenses, on attend toujours. Vous avez d'autres même assemblées qui peuvent, sur lesquelles on peut aussi se pencher. Le CESE, le Conseil économique, environnemental et social, vous regardez, ça coûte 50 millions d'euros. euros, c'est pas énorme. Et pourtant, vous vous dites...
C'est déjà plus que les anciens premiers ministres.
Oui, mais vous vous dites, finalement, ça sert à quoi? Voilà. Donc, c'est, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se poser la question.
Qu'est-ce qu'il veut faire précisément, Sébastien Lecornu, Paul Barcelone? Parce qu'il est resté assez flou, finalement.
Oui, il est assez discret, voire même mystérieux, depuis qu'il est à Matignon. Et ce week-end, cette annonce sur la fin des privilèges des anciens membres du gouvernement, c'était dans sa première interview à la presse quotidienne régionale, qui était d'ailleurs un exercice cadré. Non, je crois qu'il faut remettre aussi cette annonce dans le contexte politique, mais Renaud et Fanny l'ont dit, il y a à la fois la volonté de se montrer exemplaire, et ça correspond avec une certaine forme de son parcours. Lui, l'ancien maire, qui a été président du conseil départemental de l'Eure, qui, dès son arrivée à Matignon, prétend vouloir réaligner les Français avec leur classe politique, séparer cette idée qu'il y aurait une forme de mépris de classe ou des élites qui auraient des privilèges, donc ça va dans ce sens-là. Et puis ensuite, la deuxième analyse ou observation qu'on peut faire, c'est celle de n'avoir que des annonces consensuelles jusqu'à maintenant. Il ne prend aucun risque, à la fois sur cette annonce-là, sur la suppression de l'idée des deux jours fériés, ou encore l'abandon du conclave sur les retraites. Il y a la volonté d'embarquer l'opinion alors qu'il est quand même dans une situation politique totalement inextricable.
Oui, et le paradoxe, c'est que c'est le Premier ministre le plus impopulaire en début de mandat, ou un des Premiers ministres les plus impopulaires en début de mandat, Renaud Dely. Donc, vous pensez qu'il peut convaincre avec
ce genre d'annonce ? C'est le plus impopulaire, mais quand vous regardez d'ailleurs ce sondage, hein, où son taux de popularité, je crois, est de l'ordre de 15%, ce qui est un record au plus bas, il y a 49% de ses opinions. C'est aussi le plus inconnu, en quelque sorte, ou quasiment le plus inconnu. Hein. Personne ne connaît Sébastien Lecornu. Enfin, je veux dire, les Français l'ont découvert. Ce qui en dit long d'ailleurs sur son style, le style qu'évoquait à l'instant Paul Barcelone, ça fait quand même 8 ans qu'il est membre du gouvernement, et en gros, le grand public le découvre son existence depuis la semaine dernière. C'est aussi ce style assez austère, j'allais dire janséniste, qui lui correspond, fuyant les caméras, les médias, etc.
Ce qu'il a protégé aussi.
Ce qu'il a protégé aussi, bien sûr, mais je veux dire, n'a-t-il pas voulu, d'ailleurs, à 16 ans, n'avait-il pas envisagé de devenir moine bénédictin ? Donc, il n'est pas extrêmement bling-bling sur pour ce qui est de son style.
D'où les saluts franc contre front qu'il fait quand il croise les personnes.
Voilà.
Salut bénédictin.
En tout cas, ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette annonce sur ce que lui-même emploie le terme de privilège, d'ailleurs, les privilèges accordés à vie aux anciens premiers ministres, fin de citation. Évidemment, c'est qu'elle relève du symbole. Les symboles sont importants. Je rejoins ce que disait Fanny Guinochet. Donc, c'est très bien de mettre ce sujet sur la table. Il faut bien comprendre aussi que s'il le fait maintenant, c'est parce qu'il y a un déferlement de populisme, de démagogie ou de fake news depuis les annonces de François Bayrou de l'été dernier, de cet été, c'est-à-dire 44 milliards d'euros d'économie, suppression de 2 jours fériés. On a vu sur les réseaux sociaux des choses absolument... un sentiment d'injustice qui, lui, peut être tout à fait légitime, hein, disant, il faut, si tous les Français doivent faire des efforts, il faut évidemment que les gouvernants, que les entreprises, etc. en fassent aussi. Mais on a vu aussi des choses totalement fausses. Par exemple, il y a des fake news qui continuent. Les ministres, les anciens ministres, n'ont pas une retraite à vie, comme on peut le lire en permanence. Les privilèges en question, hein, puisque c'est le mot utilisé, c'est ceux qu'on a évoqués, c'est-à-dire une voiture avec chauffeur à vie, en effet, pour les anciens premiers ministres, et on peut tout à fait remettre en cause, bien sûr, ça peut être tout à fait légitime cet avantage-là. C'est la protection, alors ça pose une autre question, la protection. Il y a quand même une protection qui peut être nécessaire. Elle est aussi appliquée d'ailleurs aux anciens ministres de l'Intérieur ou à certains anciens ministres menacés. On sait que, par exemple, Christiane Taubira avait bénéficié, après avoir quitté la place Vendôme quand elle était garde des Sceaux, d'une protection parce qu'elle était elle-même victime de menaces, notamment après l'adoption, en particulier après l'adoption du mariage pour tous. Et puis, il y a donc ce secrétariat particulier pendant une durée de 10 ans. Tout ça peut être remis sur la table, et ça, je trouve ça tout à fait légitime d'un point de vue du symbole. Mais encore une fois, c'est vrai que ça, évidemment, c'est pas très important d'un point de vue financier au regard de l'argent qu'on cherche. Mais en revanche, je trouve que cette décision, elle est extrêmement révélatrice du discrédit qui pèse sur l'ensemble du monde politique aujourd'hui, qui atteint des sommets. Oui. Donc, ça, on peut comprendre de ce point de vue-là l'annonce de Sébastien Lecornu.
D'ailleurs, en 2019, Emmanuel Macron s'est engagé à revenir sur le privilège de la retraite dérogatoire des anciens présidents. On n'en a plus trop reparlé depuis Paul, mais là, dans le climat, en fin de mandat, on va bientôt reparler de la retraite des présidents.
D'ailleurs, à l'époque, c'était François Bayrou qui portait, lui qui avait été son compagnon de route en 2017, toutes ces histoires d'exemplarité, de démocratie exemplaire, etc. Je mets un autre bémol pour compléter ce que disait Renaud à l'instant. C'est effectivement une goutte d'eau par rapport aux 44 milliards, même si on peut penser d'ailleurs que le diagnostic que fera Sébastien Lecornu sera un peu inférieur. Et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a dit hier qu'on serait plutôt aux alentours de 35 milliards d'euros au final. Mais enfin, c'est une goutte d'eau. Et pendant ce temps-là, certes, j'entends l'annonce consensuelle qui s'inscrit dans la lignée aussi des 5 000 maisons France Santé qu'il veut ouvrir à horizon 2027. Mais enfin, pendant ce temps-là, il ne parle pas d'autre chose non plus et il ne prend pas de risques. Il sort pas de sa zone de confort. Il y a ce style, effectivement, le cornu en discrétion qui serait en coulisses tout en rondeur. Mais enfin, avec cette annonce sur les privilèges, il ne prend aucun risque. D'abord, il ne donne pas de prise aux oppositions qui vont pas pouvoir lui tomber dessus en disant c'est catastrophique de supprimer les anciens privilèges. Et par exemple, on l'a pas entendu parler dans cette longue interview sur la, dans la presse quotidienne régionale. Je sais pas, de sécurité, d'immigration ou de sujets qui fâcheraient. Même sur la fiscalité, il commence à dire il faut discuter de justice fiscale, etc. Mais il ne prend pas de risque. Et il, voilà, il va pas beaucoup plus loin que ça. Donc, la ficelle est un peu facile du point de vue de la méthode et de la stratégie politique que d'aller enfoncer un coin sur l'état exemplaire. Alors certes, c'est sûrement nécessaire, les privilèges, je suis pas en train de les défendre.
Il y a aussi un sujet, pardon, mais la classe politique est quand même ciblée de plus en plus, des maires qui sont agressés, des responsables politiques parfois quittent le privé pour aller s'engager en politique. Peut-être aussi que si on donne le sentiment que ce sont des privilégiés et si on leur retire effectivement les avantages qu'ils ont, il y aura de moins en moins de gens qui voudront faire de la politique.
C'est sûr que les ravages de la déconnexion, c'est terrible.
Ça, c'est le risque. Et on le voit d'ailleurs chez les grands patrons. Vous savez, si vous dirigez une entreprise publique, vous avez un salaire plafonné à 450 000 euros. Et on nous a expliqué que, du coup, c'était très difficile de trouver des prétendants. Bon, c'est une... Parce que par rapport à d'autres entreprises privées, ils seraient nettement mieux payés. Effectivement, c'est le risque hein, aujourd'hui que c'est l'appareil d'État, que les mandats électifs n'attirent plus.
Emmanuel Macron avait eu beaucoup de mal à trouver un Premier ministre dans le privé quand il cherchait un peu hors des sentiers
battus. Mais c'est vrai. Après, il faut peut-être trouver un juste milieu. Après, maintenant, moi, je le redis, je pense qu'il est vraiment nécessaire qu'il y ait une remise à plat globale. Alors peut-être de tous les avantages, peut-être pas les privilèges, mais tous les avantages, parce que c'est indispensable. On ne peut pas faire... Les Français ont le sentiment, et ça rejoint le mouvement des Gilets jaunes, qu'on dépense un pognon de dingue et que évidemment, il y a forcément une classe politique inatteignable qui serait hors sol. Et c'est vrai que c'est des petites choses, mais par exemple, l'affaire, vous souvenez, cet été qu'a révélé le canard enchaîné de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui demande aux policiers de nourrir ses poules pendant son absence. C'est délétère. Et c'est rien du tout, mais c'est délétère. Et ça creuse ce fossé. Donc je pense que par tous les moyens, on pourra améliorer et limiter ce sentiment de déconnexion, mieux ce sera.
Je rejoins bien sûr ce que dit Fanny Guinochet sur le principe. Bien sûr, il faut être exemplaire le plus possible. Il y a encore bien plein de choses à améliorer. Mais c'est juste pour prendre un tout petit peu de recul historique. C'est quand même, on a vraiment changé d'époque parce que pendant des décennies, il y avait ce qu'on appelait les fonds secrets. Les fonds secrets ou les fonds spéciaux. Distribué par Matignon, c'était des enveloppes de billets qui n'étaient, donc c'était du liquide, qui n'étaient pas soumis à fiscalité, qui n'étaient pas contrôlés, et qui étaient à discrétion des premiers ministres, officiellement pour verser des primes de cabinet, donc dans les différents cabinets ministériels. On sait très bien qu'il y a eu un grand nombre de scandales politico-financiers tout au long des années 60, 70, 80 et jusque dans les années 90, où un certain nombre d'anciens premiers ministres, dont on se doute que certains, disons, ont fait tomber certaines de ces enveloppes pour leur propre profit, et que ces fonds secrets n'ont été, rappelons-le, enfin, ont été supprimés il y a déjà un moment, il y a 24 ans, par Lionel Jospin en 2001. À l'époque, pendant des décennies, cette circulation d'argent liquide n'a pas posé de problème, on va dire, ni d'ailleurs à la grande partie des médias, la plupart des médias, ni à l'opinion. C'était des pratiques courantes. Aujourd'hui,
c'était une autre époque.
Aujourd'hui, on peut continuer et il faut continuer d'améliorer les choses. Il faut continuer de tendre à l'exemplarité, bien sûr. Mais la situation des politiques est beaucoup plus saine aujourd'hui dans leur rapport à l'argent et à l'argent public qu'elle ne l'était à ce moment-là. Et aujourd'hui, paradoxalement, ils sont beaucoup plus discrédités aujourd'hui. Une récente enquête du CEVIPOF montre pour 74% des Français, 3 Français sur 4, les élus sont corrompus aujourd'hui. Ce qui n'est évidemment pas
alors
le cas
d'un point de vue factuel.
Mais beaucoup moins. Oui, on a vraiment basculé, on a changé d'époque.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambret.
Les informés avec Paul Barcelone, journaliste au service politique de France Info, et Fanny Guinochet, notre éditorialiste économique. On passe à notre deuxième débat, Renaud. C'est rarissime, donc, mais le patron des patrons menace d'une mobilisation.
Et oui, Patrick Martin, le président du MEDEF, s'inquiète, s'angoisse, se rebiffe à l'idée d'un effort fiscal, notamment au travers de la fameuse taxe Zucman réclamée par le Parti Socialiste, mais en tout cas d'un effort fiscal infligé aux entreprises, aux chefs d'entreprise dans le futur budget. budget. Il menace d'ores et déjà le gouvernement de mobiliser ses troupes dans ce cas-là. Alors, les patrons dans la rue, sur le pavé, non, quand même pas. Il évoque plutôt un meeting de plusieurs milliers de chefs d'entreprise si besoin. Mais c'est vrai que c'est rarissime dans l'histoire du patronat. Voici pourquoi ce malaise du MEDEF. Samuel Tual, le vice-président du MEDEF, c'était hier sur France Info.
On sent dans nos rangs l'inquiétude, l'anxiété monter, pour pas dire la grogne et le ras-le-bol. Et donc, on aspire à plus de visibilité pour l'avenir. Donc, on a besoin d'avoir un cap clair. Donc ça, on salue cette volonté d'avancer. Mais on entend en même temps une petite musique monter, notamment du côté du Parti Socialiste, par lequel il faudrait taxer plus les entreprises pour boucher les trous. Et c'est ça qui inquiète évidemment beaucoup le monde de l'entreprise.
Fanny Guinochet, c'est rarissime, non, d'entendre les patrons appeler à la mobilisation. Alors, dans leur style, un meeting, mais quand même,
si,
ça dit quelque chose.
Un des derniers grands meetings, c'était contre les 35 heures, c'était en 1999. Le MEDEF avait réuni, d'ailleurs, je crois que c'était à Villepinte, 30 000 patrons contre les 35 heures, donc contre les lois Aubry. Bon, vous avez vu, les lois Aubry ont été appliquées. Je ne suis pas sûre que la méthode soit très efficace, donc on verra si demain, Patrick Martin a la capacité de réunir des grands et des petits patrons comme ça dans un grand meeting. La difficulté pour le patronat aujourd'hui, c'est qu'il a raté le coche en fait, notamment le MEDEF. On en est là, les entreprises sont effectivement très inquiètes et il a raison ça de le préciser.
Oui, mais pourquoi il durcit le ton aujourd'hui?
Il durcit le ton parce qu'il voit, qu'effectivement il ne va pas échapper à une taxation plus importante. Probablement la taxation exceptionnelle qui devait rester exceptionnelle l'année dernière, là, dans le débat budgétaire, c'était 8 milliards d'euros hein, sur les grands groupes. Eh bien, cette année, il est possible qu'elle soit reconduite. Et puis surtout, on voit bien que le débat autour de la taxe Zuckman, alors qu'il peut toucher des entreprises qui sont en train de se lancer, est en train de monter. Donc, c'est une réponse à ce débat qui est en train de prendre forme et qui est très, très présent et qui va occuper le débat budgétaire. La difficulté pour Patrick Martin, c'est qu'il a raté le coche. C'est-à-dire que s'il avait joué la carte du conclave, c'est-à-dire que s'il avait accepté et si le MEDEF avait lâché un peu de lest, aujourd'hui, politiquement, le Parti Socialiste ne serait pas dans un état de faire monter les enchères comme il peut le faire aujourd'hui. Et ça, c'est compliqué. Maintenant, pour en revenir à la mobilisation, il faut voir si... Alors, c'est vrai qu'il y a une grogne, hein, notamment chez les petits patrons, je dis ça sans être péjoratif du tout, mais chez les artisans, chez les petits groupes. Du côté des grands groupes, ça va être plus difficile de faire pleurer la veuve et l'orphelin en disant qu'ils ne peuvent pas payer, même si on est dans un contexte économique mondial qui s'est beaucoup durci, parce que derrière, il y a la question du versement des dividendes. Et que, par exemple, sur les rachats d'actions, sur un certain nombre de dispositifs qui auraient pu permettre d'être un peu plus égalitaires, le patronat a quand même largement freiné des cas de fer ces derniers mois et ces dernières années.
Paul Barcelone, Fanny dit que si les patrons avaient un peu lâché sur les retraites, le PS n'aurait pas été en position de force à ce point sur la taxe Zuckman ou sur la taxe des plus riches. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'il y a un mouvement qu'on ne peut pas arrêter pour plus de justice fiscale?
Je pense que la clé passe par plus de justice fiscale pour Sébastien Lecornu et ce sera évidemment un des points très sensibles de la négociation avec le PS. Mais cette mobilisation des patrons, elle vient s'ajouter à un agenda ou à des dossiers chauds qui ne font que s'empiler sur le bureau de Sébastien Lecornu, qui n'est même pas à Matignon depuis une semaine. Vous prenez la mobilisation des agriculteurs via la FNSEA qui appelle à se mobiliser le 26 septembre. Vous prenez donc la mobilisation des patrons. La journée intersyndicale, ou en tout cas la menace du coup de mobilisation des patrons, la journée intersyndicale de jeudi, ça commence à faire beaucoup pour le Premier ministre. Et tout cela, donc ça c'est l'agenda social d'un côté, et puis de l'autre, vous avez évidemment la classe politique qui se braque, le Parti Socialiste qui fait monter les enchères, qui réclame la taxe Zuckman, la suspension de la réforme des retraites, et les Républicains qui n'arrêtent pas de dire notre soutien au gouvernement et notre participation au gouvernement n'a rien d'automatique. Il faut reconnaître que certes, il a peut-être beaucoup de méthodes, il est peut-être très malin, habile, négociateur, etc., mais enfin, la tâche elle est quand même immense et ardue.
De la CGT au MEDEF, en passant par la FNSEA,
tout le monde est contre lui.
Ira-t-on vers une nouvelle convergence des luttes? C'est toujours très compliqué, hein, cet objectif affiché. Non, je plaisante bien sûr. Non, mais paradoxalement, justement, pour mettre un bémol, c'est qu'en même temps, la grogne du MEDEF peut politiquement servir Sébastien Lecornu. Californie. C'est-à-dire que la prise de position du MEDEF peut permettre de montrer aux autres, notamment à la gauche, aux socialistes, aux syndicats, bah, vous voyez, on avance, on va avancer vers un peu plus de justice fiscale. La preuve, la le MEDEF est mécontent. Et un tout dernier point, le MEDEF, mais comme le disait très bien Fanny Minochet, ils sont un peu coincés, puisque à la fois ils fustigent l'instabilité politique, qui est un vrai problème hein, pour le climat des affaires, pour les investissements. D'une part, ils y sont en grande partie à l'origine, hein, cette instabilité politique, en ayant fait capoter le conclave sur les retraites. Et d'autre part, ils n'ont donc pas du tout intérêt à ce que Sébastien Lecornu chute. Ils ont intérêt à ce que Sébastien Lecornu réussisse, sinon l'instabilité politique deviendra encore plus grave.
On est d'accord que les macronistes et même LR, ils savent qu'ils vont devoir lâcher sur ce sujet de la taxation des plus riches. Il n'y a pas beaucoup de suspense.
Oui, bah dans quelle proportion
Mais ce que montre un dernier mot cette menace de mobilisation des patrons, c'est que vraiment il y a aujourd'hui une prise de distance vis-à-vis des macronistes, parce que jusqu'à présent, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, que ce soit son premier ou même son second quinquennat, le monde patronal, le monde des affaires était plutôt derrière lui. Là, aujourd'hui, c'est vraiment une rupture.
La rupture du côté des patrons. Merci beaucoup les informés. Merci Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info. Merci Paul Barcelone, journaliste au service politique de France Info. Renaud, on se retrouve demain.
À demain, Agathe.
À demain. Et vous retrouvez les informés comme tous les soirs à 20h.